Bonjour à tous. Bon, je suis Denis Vidal, je suis anthropologue, je travaille sur l'Inde et je m'aperçois qu'il n'y a pas que les plantes qui se transmettent par diffusion comme ça. En fait, ma participation au projet est beaucoup liée au fait que je travaille dans un bureau proche de celui d'Émilie. Et c'est en discutant avec elle que je me suis trouvé mobilisé dans ce projet. Donc, je ne me prétends, c'est vraiment pas du tout spécialiste ni des plantes, c'est pas du tout mon domaine, ni comme ça. Donc, on est vraiment au départ, et pour moi, c'est quelque chose de tout à fait prématuré que de présenter quoi que ce soit à ce stade. Bon, j'ai accepté de le faire, mais voilà. Je présente simplement les éléments d'une sorte de puzzle que j'ai commencé de réunir, mais dont je suis même pas sûr encore que le puzzle, en fait, les éléments appartiennent véritablement au même puzzle. Ça sera décidé, donc on est vraiment au départ d'une recherche et pas du tout à son point d'arrivée. Et c'est uniquement ça que je vais présenter très, très brièvement. Donc moi, ce qui m'intéressait, en fait, alors indépendamment du projet, c'est le fait, travaillant depuis beaucoup d'années en Inde, c'est j'ai assisté, enfin, vous devez être au courant, à la manière dont on a vu en quelque sorte s'imposer pour toute une série de raisons, mais qui tiennent essentiellement au nationalisme hindou et à des questions d'identité culturelle et religieuse, la couleur orange dans le cadre du sous-continent indien. Donc voilà, ça c'était mon point de départ, et j'ai assisté à ça dans toutes sortes de domaines. Et j'ai même vu hier, par exemple, dans des domaines classiques, que ce soit dans le domaine politique, j'ai vu comment on a repeint des tombes, on parlait de saints, dans des régions où je travaillais, soit en vert, soit en orange. Donc une sorte de colorisation, au fond, d'un phénomène massif de colorisation. Et au fond, en discutant avec Émilie, la question, dont la conversation qu'on a eue et qui a un peu donné naissance à cette esquisse de projet, donc je ne sais pas où ça va nous mener, c'est au fond de réfléchir à quel rôle jouent les plantes dans ce processus. C'est-à-dire au fond, si vous voulez, la question générale, ça serait celle qui a déjà été abordée ici, c'est la manière dont des évolutions dans l'identité, dans des formes de représentation de l'identité culturelle ou religieuse vont interagir avec les plantes, avec des espèces végétales, mais en prenant cette question, en limitant cette question, qui est déjà bien sûr trop grand, trop important, à la question de la couleur. Voilà. Donc alors, je crois que dans la discussion préalable, là j'ai mis l'accent sur, on a dit pour cette présentation aujourd'hui, un tout petit peu comme ça, ils sont assez arbitraires, sur les œillets d'Inde, parce que bon, c'est un point qui est intéressant, parce qu'il y a une circulation entre les Amériques, la religion chrétienne, l'hindouisme, et comme ça. Mais de façon plus générale, la question qui se pose, c'est ça, ce qui m'intéresserait, ça serait de poser la question non seulement par rapport aux œillets, donc comme ça, aux marigolds, mais aussi par rapport, par exemple, au safran, turmeric, au fond, avec des contre-exemples, vous voyez les mangues, de voir au fond comment prendre différentes plantes et voir si, ou fleurs, fruits, et de voir est-ce qu'elles vont évoluer, est-ce qu'il va y avoir des transformations, etc. Voilà, alors ça, c'est ça le projet. Et donc, alors, des exemples. Attends, comment on est.
Sur la flèche.
Oui, celle-là. Oui, voilà. Donc, je vous présente, c'est vraiment pour vous présenter les images. Donc, simplement pour montrer dans ce processus, évidemment, la présence, l'importance des œillets, que j'ai voulu illustrer. Et puis le fait, alors, qui est un peu le paradoxe de la question sur lequel j'aimerais m'interroger, c'est naturellement, bon, ça c'est établi apparemment, moi je ne suis pas du tout spécialiste, mais ça va falloir travailler pour le confirmer, mais la présence, donc les œillets viennent par le biais des Portugais d'Amérique, hein, avec un passage important d'ailleurs en Europe, une valorisation de l'œillet en Europe. Donc ça pose deux problèmes différents, c'est de savoir, au fond, qui m'intéresse, c'est d'une part comment va s'opérer cette circulation comme ça, sur la longue durée, et puis la façon dont cette circulation va en quelque sorte se coloriser, en quelque sorte, hein, selon les contextes, puisqu'il n'y a pas de raison au départ, je crois, je pense que ce soit particulièrement orange, c'est une question encore à voir. Voilà, donc je vous montre, donc on part du... comme ça, donc là on est au Mexique où les œillets sont surinvestis dans deux contextes, en fait, qui est la fête des morts au Mexique, et puis dans les cultes à la Vierge, et ça on le retrouve en Europe, et particulièrement enfin, lié à l'Annonciation. Voilà, donc je vous montre ça, simplement ça c'est au Mexique. Voilà, donc ça c'était pour le passage, enfin la transition par l'Empire portugais, quelque chose que vous devez bien mieux connaître que moi. Et puis la valorisation des massifs, quand même, des œillets en Europe, en fait, dans la culture, au XVIe, XVIIe siècle en Europe. Et alors, ce qui m'intéresse, c'est que c'est au fond, je crois, pour l'instant, qu'il n'y a pas eu beaucoup de travaux sur cette transition. Alors ça, c'est des choses à explorer sur le plan culturel. Et donc la façon dont ça va passer en Inde, parce qu'au XVIIe siècle, il faut savoir, enfin, il est l'Empire Marathe qui se développe en Inde au XVIIe siècle, prend comme emblème des drapeaux orange, et quelque part, l'orange va être associé dans le nationalisme en Inde, commence vraiment à s'affirmer à partir du XVIIe siècle, et donc à partir du transfert, quelque part, il y a une sorte de concomitance là. Et donc, simplement pour terminer, pour la façon dont ces choses se réactualisent, ça c'est très récent, par exemple, pour donner cet exemple, il y a eu la commémoration à l'occasion de la Première Guerre mondiale. Il y a le gouvernement indien, qui est un gouvernement assez nationaliste, comme vous le savez, aujourd'hui en Inde, donc qui a estimé qu'il manquait une fleur qui emblématiserait le rôle joué par les soldats indiens en Europe pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, ils ont décidé que cette fleur serait l'œillet d'Inde. Et donc, qui ferait. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a cette sorte d'enjeu. Pour terminer, là, vous voyez Modi, le Premier ministre indien, enfin, pour montrer, le retomber sur l'usage massif, d'un côté de la fête des morts qui prend aussi toute une importance culturelle qui est très aujourd'hui beaucoup plus importante. Alors il se trouve qu'on a des collègues qui travaillent là-dessus, donc il y a des collaborations possibles avec des gens qui travaillent au Mexique et qui, eux, connaissent bien la question. Et au fond, essayer d'aborder sous cet angle un peu inhabituel des questions enfin, qui nous sont très familières sur la transmission culturelle et sur la concomitance, au fond, essayer de voir s'il y a des phénomènes de concomitance et d'essayer de voir comment ça peut être lié donc, à des phénomènes comme ça. Voilà, donc c'est vraiment, j'ai que ça à dire aujourd'hui. Je ne suis même pas sûr, en fait, par exemple, je commençais en explorant le sujet, j'étais assez fasciné. Par exemple, vous parliez du safran, justement, parce qu'il y a tout un symbolisme enfin, linguistique presque plus que la couleur safran dans l'Inde. Donc, je ne sais pas encore. Il y a des phénomènes aussi très intéressants, par exemple, où on s'aperçoit que les mangues, vous savez, en Inde, la mangue par excellence, ça s'appelle les Alfonso, et sont vraiment considérés comme un peu comme une sorte de caviar, comme la mangue que tout le monde attend. Et Alfonso, c'est Alfonso de Albuquerque, donc c'est là au contraire, le souvenir de la connexion, enfin du Portugal, qui s'est maintenu. Donc voilà, donc on a toute une sorte de configuration, un puzzle, et pour l'instant, je peux vous présenter ça que dans le désordre, mais voilà, ça fait partie, c'est comme ça que se fait la recherche. Merci.